Chers auditeurs, chers amis, vous qui êtes à l'écoute, aujourd'hui, nous avons l'étude numéro 8, toujours Christ la lumière jusqu'au retour de Christ le Messie. Le titre pour aujourd'hui sera « L'éternité ». Il est dit dans Job, au chapitre 14, verset 14, « Si un homme meurt, peut-il revivre ? Tous les jours de mon service, j'attendrai jusqu'à ce que vienne ma relève. » Un homme merveilleux a dit quelque chose de vraiment sensationnel. Écoutez cela. Il s'appelle John Henry Newman. Ne crains pas que ta vie arrive à son terme, mais crains plutôt qu'elle ne commence jamais. Ça vaut la peine de répéter. Ne crains pas que ta vie arrive à son terme, mais crains plutôt qu'elle ne commence jamais. Et Ésaïe continue de dire au chapitre 11, « Et le loup résidera temporairement avec l'agneau mâle, et le léopard se couchera avec le chevreau, et le veau, et le jeune lion à crinière, et l'animal bien nourri, tous ensemble, et un petit garçon pourra les guider. On ne fera aucun mal, et on ne causera aucun ravage dans toute ma montagne sainte, car la terre sera assurément rempli de la connaissance du Seigneur comme les eaux couvrent la mer. » Et c'est ainsi que le prophète Isaïe, aussi Ésaïe selon les versions bibliques, il y a les versions de l'abbé Crampon, des moines de Maritzou et des quantités d'autres qui disent Isaïe, d'autres Ésaïe. C'est ainsi que le prophète chante les conditions idylliques du futur royaume de Dieu. Notez Ésaïe, chapitre 11, versets 6 et 9. Vraiment, la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme aux cieux. Toute la nature répondra à ce nouvel ordre merveilleux. Même l'homme et l'assassin supérieur posera les armes, et ils devront forger leur épée en soc de charrue et leur lance en cisaille à émonder. Ils ne lèveront pas l'épée, nation contre nation, et ils n'apprendront plus la guerre. Michée, chapitre 4, verset 3. Évidemment, c'était à une époque où il n'y avait pas des bombes atomiques. Mais ça veut tout dire, ça veut bien dire qu'il n'y aura plus les engins de meurtre pour tuer les uns contre les autres. Michée, au chapitre 4, il décrit un véritable monde de paix, un monde de paix qui est gravé sur la façade du siège des Nations Unies à New York. Mais sans le début du verset, il est dit « Et il rendra sentence au milieu de nombreux peuples et remettra les choses en ordre concernant des nations puissantes au loin. » En tout cas, le mal et tous ces arguments disparaîtront à la venue du règne du Seigneur. Et j'ai vu un ange. Certaines versions allemandes disent un archange. Je crois que c'est plutôt cela, un très puissant archange du ciel. Et cet archange saisit Satan et il l'a lié pour 1000 ans et il l'a lancé ou jeté dans l'abîme qu'il a fermé et scellé sur lui pour qu'il n'égare plus les nations. Die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 3. Excusez-moi. Avec Satan lié, la terre sera un meilleur endroit. Et comment? C'est du reste le moins que l'on puisse dire. Le roi régnera à Jérusalem et les fidèles de tous les âges régneront avec lui. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Saint Luc chapitre 12, verset 32. C'est bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup de choses. Entre donc dans la joie de ton Seigneur. Saint Matthieu chapitre 25, verset 21. Nous aurons donc acquis ainsi l'immortalité, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 53, de sorte qu'une espérance de vie atteindra, écoutez bien, 1000 ans, et que la mort sera surtout abolie. Ce royaume, ou millénium, comme il est aussi nommé, régnera sur terre pour 1000 ans et ensuite il y aura l'éternité. L'éternité. En contemplant l'avenir de là où nous nous trouvons maintenant dans le projet annoncé de Dieu, nous pouvons voir qu'un nombre d'événements prophétiques doivent se réaliser avant la dernière loi de Dieu, l'éternité. Les livres donnent de réels programmes sur la période biblique comme la fin des temps. Personne ne connaît les dates de ces événements à venir, mais leur ordre est clairement indiqué dans les Saintes Écritures. Dieu a inclus dans sa sainte parole une authentique parole pour les sages. Douter de la prophétie de la Sainte Bible, cela s'est révélé très stupide pour de nombreuses personnes à travers l'histoire. Nous pensons qu'une connaissance active des paroles des prophètes à propos de la fin du monde, telles que nous les connaissons, est bien avisée. À notre avis, c'est impératif. La période de tribulation semble être en préparation, et c'est le premier événement dans l'emploi du temps de la fin du monde. Jésus-Christ lui-même a prédit de tels phénomènes comme la famine, des fléaux et des tremblements de terre pour cette période-là, ainsi que la venue de faux messies, le rétablissement et la persécution subséquente d'Israël et l'ascension du chef mondial connu sous le nom de l'Antéchrist. Notez Saint Matthieu chapitre 24, surtout les versets 21. On trouve du reste le récit de la prophétie à travers toute l'Apocalypse. Notez le chapitre 4. Notez le chapitre 19 et entre deux, et même tout au long du livre de Daniel, les mises en garde de l'apôtre Paul à propos de l'Antéchrist sont les plus claires dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Je répète, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. D'autres épîtres détaillent l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist est déjà lâché dans le monde. On devrait le voir. Et la famille de l'humanité semble avoir atteint dernièrement les nouvelles profondeurs de la dépravation. Mais maintenant, de nombreux spécialistes de la prophétie pense que notre époque semble se diriger très directement vers la fin des temps bibliques. Bien sûr, nous avons parlé des faux messies, des faux professeurs, des faux scientifiques. Pas qu'ils soient faux, mais ils sont instruits et dirigés et inspirés par Lucifer lui-même pour faire croire à l'humanité, déjà aux enfants surtout, que on retrouve dans des grottes, dans des excavations, etc., des preuves de l'humanité il y a plus de 25 000 ans. Tout cela pour discréditer totalement la sainte parole de Dieu. Tout ça, c'est voulu par l'ennemi. Il travaille dur et il y arrive parce que l'Église a baissé les bras. Voyez-vous, l'enlèvement du temple, elle sera soudaine. Le Seigneur viendra tel un voleur dans la nuit, en un clin d'œil. Les réservations pour l'enlèvement doivent être faites à l'avance. La seconde venue du Christ est planifiée pour la fin de la période de tribulation. Il reviendra à Jérusalem où il régnera sur le royaume. Pendant 1000 ans, le Seigneur et les fidèles régneront, tandis que Satan sera lié et que les infidèles attendront le jour du jugement, selon Apocalypse chapitre 20. La paix sur terre, la bienveillance parmi les hommes prévaudront finalement en ce monde temporairement affligé. À la fin de ce règne, le Seigneur jugera toutes les âmes, sauf les fidèles qui auront obtenu le pardon par le sacrifice du Seigneur. Les fidèles, en fait, agiront comme des juges. Les hommes soumis hériteront ainsi de la terre. Et c'est aussi le moment de la grande division finale de toute l'humanité dont chaque membre sera ressuscité. Ceux qui croient en Dieu le rejoindront pour toute l'éternité et les autres resteront en enfer, également pour toute l'éternité. Ce n'est pas une plaisanterie, cela. Ensuite, c'est la véritable vie après la mort, au sens biblique, qui sera connue par chacun. Bien sûr, les expériences que nous avons relatées ne commencent pas par la description de ces innombrables détails, et elles omettent de parler de cette division des hommes d'une super importance en deux lieux éternels. Je répète, en deux lieux différents, mais pour l'éternité. Mais il suffit de dire que nous vivrons tous éternellement et nous n'avons que à choisir, vous et moi, à choisir le lieu où nous voulons être pour l'éternité. Bien sûr que ça ne se fait pas sans avoir accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Avoir reconnu que nous sommes pécheurs et perdus. Si je suis pécheur, je sais que je suis perdu. Et sans avoir accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur personnel, qui a versé son sang précieux pour me laver totalement, pour effacer tout ce qui était vilain de ma vie, eh bien, si je ne comprends pas cela, si j'arrive pas à m'humilier pour saisir sa main, je finirai l'éternité à la mauvaise place. Ensuite, c'est la véritable vie après la mort, au sens biblique, qui sera connue par chacun. Bien sûr, les expériences que nous avons relatées ne commencent pas par la description de ces innombrables détails, et elles omettent de parler de cette division des hommes d'une suprême importance, et je répète, en deux lieux différents pour l'éternité. Mais il suffit de dire que nous vivrons tous éternellement et nous n'avons que à choisir le lieu. Heureusement, ce choix reste libre. Un des brigands à la croix a compris. Il a saisi l'occasion. Il a compris qu'il était perdu. Et Jésus lui a promis qu'il serait avec lui. Ce choix reste libre. Un a compris et accepté, l'autre pas. Oui, vous savez, ce choix ne sera pas pour une période limitée. Ce ne sera pas des vacances de 15 jours. Non, 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 non. C'est très sérieux tout cela. D'un seul regard, il y aura l'éternité. Nous ne pouvons que jeter un regard sur l'éternité parce que l'idée se trouve simplement au-delà de notre compréhension. La Sainte Bible fournit des descriptions générales, mais pas vraiment beaucoup de détails. Probablement, parce que les hommes ne sont pas faits, soit par inclination, soit par imagination, pour apprécier l'éternité. L'éternité, c'est le mot de Dieu pour qualifier ce système dans lequel la terre et le ciel doivent être remplacés. La ville de Jérusalem figure aussi dans le projet de Dieu pour cette dernière époque. Un nouveau ciel, est-il dit. Une nouvelle terre, c'est pas moi qui le dis, hein. Et une nouvelle Jérusalem sont tous évoqués dans Die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 21, depuis le verset 1 et le verset 2. Jérusalem est inclus dans ce tout nouvel ordre comme étant le siège de la loi de Dieu, comme l'était son rôle dans les temps passés. Jérusalem était le seul site de la maison de Dieu ou le temple, et il en sera ainsi dans le futur. Voici, la maison de Dieu est avec les humains et elle résidera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Oui, nous serons son peuple, à Dieu notre Papa céleste, et à Jésus-Christ son Fils bien-aimé. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et le Seigneur essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus, plus de cancers douloureuses, affreuses, et d'autres maladies épouvantables, où la souffrance est inimaginable, mais aujourd'hui, on pratique simplement l'assassinat. On pratique l'assassinat déjà pour les bébés qui sont dans le ventre des femmes. Oui, on assassine. Avant même qu'un enfant naît, et on assassine tout simplement avec des mots évidemment scientifiques, merveilleux, des mots enveloppés d'une sorte de science médicale, euthanasie, on peut appeler ça toutes sortes, mais c'est de l'assassinat. C'est, il n'y a plus besoin de parler de l'électrocution ou la pendaison, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus raffiné. Alors, on ne veut plus souffrir avant de mourir, surtout pas. Mais attention, le pire est à venir. Je l'ai dit dans le CD précédent, le pire est à venir. Les choses anciennes ont donc disparu. Et celui qui était assis sur le trône a dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, verset 3 jusqu'au verset 5. Ésaïe, il a dit, que même les mauvais souvenirs des temps anciens seront abolis. Car voici que je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et l'on ne se, on se remémorera pas. On ne mettra pas en mémoire les choses précédentes, on ne les ressassera pas, on nous les jettera pas à la figure, en disant oui, mais est-ce que tu te rappelles quand tu as volé ceci et cela, et puis qu'on t'a mis en prison? Est-ce que tu te rappelles que tu as déjà volé à la cave quand tu étais simplement un petit enfant, un pot de confiture, et que tu l'as mangé en cachette? Etc., etc., etc. Il n'y aura plus cela. Parce que, voyez-vous, quand nous devenons des enfants du Seigneur, notre cœur change et on ne jettera plus à la figure de son frère ou de sa sœur avec une espèce de haine féroce les choses du passé. Terminé tout cela, alléluia. On se demande du reste, ceux qui font cela, s'ils sont vraiment, vraiment, on se demande. C'est pas moi qui dis cela. Ça se trouve dans les Saintes Écritures. C'est démontré, c'est pas moi. Et il est démontré que ceux-là, ce n'est pas sûr qu'ils sont vraiment sauvés totalement. Ils sont peut-être sauvés tout juste, mais pas délivrés. Oui, je voudrais que vous notiez Ésaïe, chapitre 65, verset 17. Ainsi c'est le ciel. Il n'est pas fait mention de personnes qui vont flotter sur des nuages cotonneux en pinçant les cordes d'une harpe ou en polissant leur auréole. Non, non, non. Ce mythe, parce que c'en est bel et bien un, va de pair avec l'image du diable rouge pointant sa fourche d'une façon menaçante. Tous deux font partie des chimères des hommes et ne sont pas fidèles aux Saintes Écritures. Nous avons des descriptions de la salle du trône de Dieu dans le livre de l'Apocalypse et une idée de la félicité de la société des anges. Oui, il y a les anges. Du reste, les anges, je vous en parlerai un peu plus tard, ils nous servent, ils nous aident, nous protègent. Et donc, là, vous verrez que c'est une réalité. Mais les portes de perles, il en est parlé. L'apôtre Pierre se tenait, c'est ce qu'on dit dans certaines théologies, même très puissantes et reconnues, soi-disant que, alors eux ils appellent ça Saint-Pierre. Alors Saint-Pierre est debout là, à l'entrée, paraît-il, de la porte du ciel, pour vérifier les invitations. Et tout le reste de l'histoire sur les cieux, ça n'apparaît absolument pas. Il n'y a pas quelque chose de semblable dans les Saintes Écritures. Non, non, non. Tout ce que nous pouvons imaginer, c'est que nous devenons spirituels en nature, car nous changeons complètement, n'ayant plus besoin de la terre, ou du moins dans la forme qu'elle a maintenant. Donc, nous faisons véritablement un seul corps avec Dieu, notre Papa, mais conservant encore notre individualité. Les êtres spirituels ne sont pas des robots, sont des personnes distinctes et non une masse absorbée par Dieu, comme dans le concept traditionnel du nirvana oriental. Nous restons les mêmes personnes, mais merveilleusement recréées. Tout a changé. La comparaison habituellement suggérée par la nature est celle d'une simple larve. On peut comparer ça à une larve dont va naître un magnifique papillon. Nous pouvons imaginer, puisqu'il est dit dans les Saintes Écritures que Dieu est amour, que ce sera un environnement d'amour, puisqu'il nous encourage à l'amour, la paix, la joie, la beauté. Et nous pouvons imaginer que nous pourrons apprécier éternellement la présence de l'essence même, de toutes ces sensations les plus sublimes. Nous jouirons d'un amour infini, d'une sécurité infinie et d'une existence sans fin parmi toutes ces choses. Ce magnifique bonheur à venir est à peine évoqué dans les Saintes Écritures. L'œil ne les a pas vus, et l'oreille ne les a pas entendus, et elles ne sont pas connues dans le cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour tous ceux, vous et moi, qui aiment notre Père Céleste, Yahvé l'Éternel, et son Fils bien-aimé Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. C'est la nature de Dieu que de donner. Il nous a donné tout ce que nous avons et bien d'autres choses aussi que nous ne percevons pas cependant. Nous lisons qu'il nous aime, mais nous ne pouvons qu'attendre l'âge à venir de l'éternité afin de connaître l'étendue de ce grand amour. Son grand amour dont il nous a aimés pour que soit montré dans le système de choses à venir, tout ce qui est à venir, l'extraordinaire richesse de sa faveur imméritée dans sa beauté envers nous et en union avec Christ Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 7. Jésus-Christ a simplement dit « Grand sera votre récompense au ciel » et l'apôtre Paul nous assure que les souffrances de la période actuelle sont de peu d'importance en comparaison de la gloire qui va être révélée en nous. Romains chapitre 8, verset 18. Le meilleur de tout cela, c'est que nous connaîtrons finalement le plus grand des bienfaits des Saintes Écritures. Nous atteindrons une réalité dont le nirvana, la vertu et le bonheur parfait, pour nommer une piètre partie des buts ultimes de l'homme, sont de vagues ombres. Car nous, vous et moi, nous serons semblables à lui, à Jésus-Christ. Notez 1er épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. Ce dont nous manquons en permanence actuellement, la grande ressemblance avec Jésus-Christ, la perfection d'un être humain aimant et vertueux, sera notre pain quotidien dans l'éternité. Chacun de nous sera totalement juste, complètement heureux, exceptionnellement puissant et entièrement pur. Nous serons avec Dieu, nous parlerons avec lui et nous communierons constamment avec lui pour toujours. Le temps et l'espace n'existeront plus du tout, mais nous suivrons éternellement le faiseur du temps et le faiseur de l'espace. Alors, nous comprendrons tout. Tous les secrets de l'univers, nous les comprendrons tels qu'ils seront expliqués par leur Créateur. Nous aurons la réponse à chacune de nos questions. Et parce que Dieu est infini, il y aura, à travers l'éternité, de nouvelles choses à apprendre de lui. Quoi que nous apprendrons, nous devrons toujours être attentifs à l'amour infini de Dieu pour nous, qu'il exprime dans la vie, la mort et dans la résurrection du Christ. Nous connaîtrons les personnalités de la Sainte Bible, nous verrons nos propres amis et nos proches qui nous auront joints pour l'éternité et nos anges gardiens, on en parlera, tels que nous pensons. Les temps de guerre spirituelle et physique auront passé alors que nous profiterons d'une paix parfaite. Nous allons acquérir un savoir incommensurable. Aussi ignare que je suis actuellement avec le peu d'instruction, eh bien, c'est fini tout cela. Nous tous, vous et moi, nous allons acquérir un savoir incommensurable, au-delà de toute compréhension, car nous comprendrons tout. Nous hériterons de l'Esprit du Christ. L'apôtre Paul a utilisé une comparaison incroyable pour enseigner à ses ouailles qu'il était indigne pour les personnes sauvées d'avoir des favoris parmi leurs enseignants. Il a utilisé cette expression percutante. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 21 à 23 que personne donc ne se glorifie dans les hommes, car tout vous appartient, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout vous appartient, mais vous, vous appartenez au Christ, et Christ appartient à Dieu le Père. La chose la plus bouleversante à propos de l'éternité est qu'il n'y a pas de temps. Cela, nous ne pouvons l'imaginer. Le temps est notre compagnon de tous les instants. On s'y perdrait désespérément dans nos vies sans notre utile système de mesure. Mais Dieu l'abolira totalement. Plus besoin de cela. C'est la véritable essence de l'éternité, car elle n'a pas de temps. Elle ne dure pas vraiment éternellement, puisque pour toujours, toujours indique que le temps, ce temps-là, il est conservé totalement pour l'éternité, des éternités. Il n'y a pas de fin. Elle ne dure pas du tout, puisque la durée indique quelque part la possibilité d'une fin, dont il n'y a pas une durée. Vous avez compris? Elle ne dure pas du tout, puisque la durée d'une chose indique quelque part qu'il y a la possibilité d'une fin. Elle existe simplement, tout simplement. Elle existe en permanence. Elle existe infiniment. Chers amis, toutefois, attention, il est bien temps de réserver une place pour l'éternité. Le temps joue un rôle très important dans nos vies quotidiennes. Le temps apporte la mort. Ah oui, le temps apporte le passé et le présent. Et le temps s'enfuit pendant que nous méditons sur nos vies. Et le temps de vivre nous échappe totalement en ce monde. Voici, c'est maintenant. Maintenant, est-il dit. Avez-vous entendu? Voici, c'est maintenant le temps tout à fait favorable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. À un moment donné, ça s'appellera zu spät. You are too late. Vous êtes trop tard. Chers amis, dans ce genre d'écrit, s'intéresser à un sujet de la plus grande importance telle la vie et la mort, sans préciser une fois encore comment atteindre l'éternité, serait à notre avis une négligence. Nous pouvons présumer que n'importe quel auditeur et auditrice est intéressé par la vie après la mort. Nous croyons que nous l'avons trouvé et nous savons qu'elle est possible pour n'importe qui. Nous réalisons que la popularité d'une nouvelle recherche sur la vie après la mort, elle est due à l'intérêt immense que possède toute personne vivant pour ce sujet ultime. Nous sentons donc que toute personne vivante pourrait lire les travaux de Moody, de Kubler-Ross et beaucoup d'autres, si elle croyait qu'il y avait une once de vérité dedans. Si les gens croyaient vraiment qu'ils pourraient se préparer pour la mort et faciliter leur transition dans la vie d'après, ils feraient la queue aux portes des médiums et des associations occultes. Il y aurait la queue derrière toutes ces boutiques occultes et sataniques pour réclamer un ticket. Voyez-vous, si les gens pensaient vraiment que le prochain monde accepterait complètement toutes les âmes telles qu'elles sont, chacun voudrait avoir sur l'instant même une de ces étranges expériences de mort clinique. Toutefois, nous pensons que les gens sont beaucoup plus intelligents que cela. À notre avis, les gens sont très très conscients de leurs défauts devant Dieu. Heureusement que j'en étais conscient, car aujourd'hui je serais perdu. Nous savons par de récentes enquêtes que ce pays est profondément intéressé par Dieu. Nous savons que la Sainte Bible reste de loin le best-seller de tous les livres au monde, malgré qu'on prétend autre chose, de tous les temps, et que la foi en la Sainte Bible est au-delà de toute mesure celle qui domine chez l'homme aujourd'hui. Nous pensons que chaque homme vivant veut joindre le royaume de Dieu et entrer dans l'éternité avec Dieu. Certains ont plus de facilité que d'autres. Il est vrai. Moi, j'ai vraiment eu aucune facilité. Je l'avoue. Mais parmi ceux qui ont la Sainte Bible et la connaissance de base sur Dieu, simplement une connaissance de base suffira pour être nécessaire, pour comprendre que nous sommes perdus, pour acquérir le salut. Chacun d'entre nous peut atteindre cela. Il faut le vouloir, il faut être assez humble, et c'est pas très difficile. Car maintenant est le temps favorable. En cela, il y aura une fin à cette ère et une fin à ce monde. Il n'y a pas d'alternative raisonnable. Attendre cette décision est infiniment dangereux si nous devons en croire les Saintes Écritures. De tels sujets comme la venue de l'Antéchrist, la venue de l'Armageddon, ne sont pas des sujets de débat léger, d'indécision ou d'interprétation éphémère. Ces prophéties proviennent des écrits même de ceux qui ont prophétisé la venue de Jésus-Christ, qui ont prophétisé la restauration d'Israël à notre époque et une centaine d'autres événements objectifs et déjà vus, qui ont déjà été vus dans l'histoire de l'homme. Dieu est une réalité absolue et il pense ce qu'il dit, mais il est amour. Il est infinie miséricorde et pardon. Il m'a tout pardonné par son Fils Jésus-Christ. Comme il a lutté pour nous, comme il a essayé de mener chaque homme, chaque femme au salut, sans prendre notre liberté de choix. Non, il nous a donné et laissé le libre choix, totalement. Dieu a vraiment fait tout cela. Choisissez Dieu. Allez avec Jésus-Christ, dont le sacrifice nous ouvre la voie. Je suis le chemin et la vérité et la vie, a dit Jésus-Christ. Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Moi, je suis venu pour qu'elles aient tous la vie et qu'elles l'aient en abondance. Saint Jean chapitre 10, verset 10. Donc, chers amis, si nous portons attention à la croyance qui consiste à dire que la mort affecte la vie d'un individu, alors Jésus est véritablement, véritablement la vie. Cherchez un véritable croyant et observez un peu sa vie. La différence que vous verrez, c'est Jésus-Christ. Le Sauveur a fait en sorte que cette vie soit un succès. Jésus-Christ fera de cette vie une vie éternelle. Ce croyant ne craint plus la mort et ainsi il vit plus pleinement. Le Sauveur, il vous connaît. Et comment ? Il n'y a pas besoin de choisir une attitude à avoir envers Jésus-Christ avec la tête un peu penchée et à avoir un air religieux. Il est venu ici et il nous connaît tous. Il connaissait le cœur des hommes. Il nous apprend l'Évangile. En voyant tout ce qu'il a fait pour nous, ne l'accepterez-vous pas ? Je vous le demande. Ne mettrez-vous pas un terme à cette discussion une bonne fois pour toutes et vous garantir ainsi, oui, vous pouvez vous garantir ainsi une place dans les grands moments à venir. Parlez-lui tout simplement maintenant. Il vous écoute. Oh oui. Une simple mais sincère prière, comme celle que je vais vous donner, que l'Esprit-Saint m'a inspirée pour vous, cette simple prière, toute simple, suffira. Dites simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. J'ouvre mon cœur à toi pour te recevoir. Merci de pardonner tous mes péchés. Je reconnais que sans toi je suis perdu. Prends le contrôle maintenant du centre de ma vie. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Si vous faites cette simple prière, alors bienvenue dans l'éternité. See you soon again. Auf bald wiedersehen. Chers amis, la prophétie que vous allez entendre, elle n'est pas de moi. Cette prophétie a été donnée après une campagne d'évangélisation. Et j'ai reçu dans le cœur de vous la transmettre, simplement. Voici ce que dit le Seigneur. Vous n'atteindrez jamais les cœurs de cette nation tant que vous, mon peuple, qui êtes appelés par mon nom, ne vous repentirez pas et ne vous repentirez pas de tous les péchés que vous avez commis. Vous dites, mais Seigneur, de quelle manière avons-nous péché? Comment avons-nous offensé? En ignorant simplement ma sainte parole, vous m'avez offensé. En diffamant mon saint nom aux yeux de la nation. Vous demandez comment avons-nous renié et diffamé ton saint nom. En déclarant, en affaiblissant la foi des croyants qui n'ont pas la connaissance biblique, qui n'ont pas la capacité pour comprendre les théories complexes et les propositions théologiques que vous posez. Vous avez permis à l'adultère d'être pratiqué dans mon Église, même parmi les prêtres et les pasteurs. Ils ont péché publiquement, mais ils n'ont pas été condamnés publiquement. On a permis à beaucoup d'entre eux de conserver un poste pastoral. D'autres ont ouvertement déclaré avoir commis des péchés qui sont détestables à mes yeux, mais ils n'ont pas été réprimandés. Au lieu de cela, ceux en haut lieu les ont approuvés. Ceci à cause de la confusion parmi la nation et avec une baisse des critères moraux. Les gens disent, s'il est permis aux prêtres, aux pasteurs de pécher, alors cela doit nous être permis aussi. Il en était de même à l'époque de Jérémie, quand j'ai dit, mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Il y a de nombreuses anomalies et contradictions présentées à la nation par ceux que l'on considère comme étant l'Église. Ceci provoque une grande confusion. Ils font tomber l'Évangile en discrédit et apportent déshonneur au saint nom de Christ. Quand commencerez-vous à vous voir tel que les autres vous voient, désunis, se querellant pour savoir qui devrait être ordonné, étant en désaccord sur les principes moraux de base, incertains des fondements de la foi, injustes dans la manipulation de l'argent, ne pratiquant pas ce que vous prêchez, faisant des déclarations qui semblent politiques plutôt que prophétiques, car elles ne contiennent pas l'autorité de la sainte parole de Dieu, du Dieu vivant. Le monde dédaigne les pasteurs fidèles, les prédicateurs humbles et la multitude de croyants fidèles qui ne se sont pas agenouillés devant les idoles, où ils n'ont pas rejeté la sainte parole de Dieu en faveur de la séduction de Mammon et des tentations de la chair. Les gens du monde ne veulent pas voir ces gens fidèles, car ils sont pour eux un reproche. Ils préfèrent voir ceux qui leur ressemblent, dont l'image pécheresse les réconforte et renforce leurs mains malveillantes. Le monde ne distingue pas la véritable Église de l'Église apostate, les croyants fidèles des croyants infidèles. Ils n'y voient rien. Mais parmi ceux en haut lieu, il y a beaucoup de croyants fidèles, mais ce sont des croyants secrets qui sont contrôlés et qui sont bâillonnés par la peur de l'homme. C'est pourquoi leurs mains sont sans énergie et leurs cœurs sont découragés. Ils se sentent impuissants et opprimés, manquant de la liberté de l'esprit et de la joie du Seigneur. Voici ce que le Seigneur dit à son Église. Vous faites partie d'une nation qui est en train d'être jugée. Oui, le jugement a déjà commencé. Vous avez reçu des avertissements depuis de nombreuses années que l'économie n'ira jamais bien ou que la vie sociale du pays ne sera jamais sur une base stable tant que vous n'aurez pas établi la droiture dont le pas était fidèle en proclamant la sainte parole de Dieu à une époque de changement social rapide. Et c'est pour cette raison que les ennemis de l'Évangile ont eu tant de liberté pour changer les lois du pays et que les médias ont étalé tant de paroles grossières, de conduites obscènes et ont dévoilé l'adultère et les actes homosexuels. Toutes sortes de conduites mauvaises ont été présentées comme étant normales aux yeux de la nation. C'est pourquoi la famille et la vie de famille se désintègrent, que les maris et les pères abandonnent leurs femmes et leurs enfants, que les femmes abandonnent leurs maris et commettent l'adultère avec des hommes mariés ou non, et que les jeunes avec n'importe qui leur plaît de l'un ou de l'autre des sexes. La nation est malade et va vers une catastrophe énorme, mais je rends mon Église essentiellement responsable de la vie morale et spirituelle de cette nation. Vous êtes les sentinelles de la nation et vous n'avez pas été vigilants sur les murs des cités pour discerner les attaques de l'ennemi ou pour donner l'alarme pour avertir les gens du danger. Ainsi, l'ennemi a-t-il été autorisé à envahir et à pervertir le pays. Le pays a été pollué par le sang versé innocemment, par la violence et la pornographie, par l'adultère et la sodomie, par la corruption et l'injustice, par l'avidité et l'avarice, par l'oppression et la perversité, par les mensonges et la duperie, par la sorcellerie et l'idolâtrie, et par un manque de compassion envers le pauvre et le faible. Face à tout ce mal et cette corruption, votre voix n'est toujours pas entendue dans la nation. La déclaration prophétique de la sainte parole de Dieu n'est pas entendue de la bouche des dirigeants de l'Église. C'est pour cette raison que l'Église se languit, que son nombre diminue, ses finances se portent mal et qu'il y a de la désunion, de la discorde et un manque de prévoyance. C'est maintenant le moment de se repentir, c'est maintenant le moment de reconnaître votre infidélité et la façon dont vous avez dévié du droit chemin et avez échoué à défendre ma sainte parole dans la nation. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens, parole dans la nation. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens, si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagissent. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Maintenant, vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Maintenant, vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si vous publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Maintenant, vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Vous refusez. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Maintenant, vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si vivent gens réagiront. Si vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si vivent ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si vous réagiront, si vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si vous et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si vous publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. La nation, si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si vous publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si vous maintenant, vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagir. Si maintenant vous vous repentez publiquement de vos péchés et proclamez ma sainte parole dans l'Église et aux yeux de toute la nation, les gens réagiront. Si les gens réagiront.